Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal, présenté par Blaise Shindani Kambala.
Le gouvernement congolais et AFC M23 ont signé un accord de principe samedi à Doha. C'est un engagement fort en faveur d'un règlement pacifique du conflit à l'est de la RDC. Dans le préambule de cette déclaration de principe, les deux parties réaffirment leur attachement à la paix, à la constitution de la RDC et aux chartes de l'Union africaine et des Nations unies. Le bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme dit avoir documenté 427 violations et atteintes aux droits humains au cours du mois de mai 2025, représentant une réduction de 22% comparée au mois précédent. L'invité de ce journal est le vice-premier ministre, ministre congolais de l'Intérieur et de la Sécurité, Jackman Chabani. Depuis Doha, il revient sur la signature de la déclaration des principes entre le gouvernement congolais et l'AFC M23, intervenu samedi sous la médiation qatari. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre grande édition du journal parlé du matin. Ce journal part de Doha où un accord de principe a été signé samedi 19 juillet entre le gouvernement congolais et l'Alliance Fleuve Congo M23. Ce document marque une avancée significative dans les efforts de paix pour l'est du pays, en particulier dans les provinces du Sud Kivu, du Nord Kivu et de l'Ituri. Ce document ne constitue pas un accord final, mais une base solide pour un processus de paix inclusif qui devra intégrer les communautés locales, les acteurs politiques et la société civile. Jean-Gandouka Bongo, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette déclaration de principe?
Il faut dire que c'est un engagement fort en faveur d'un règlement pacifique du conflit dans l'est de la RDC. Dans les préambules de cette déclaration des principes, les deux parties, à savoir le gouvernement congolais et les M23 AFC, réaffirment leur attachement à la paix, à la constitution de la RDC et aux chartes de l'Union africaine et des Nations unies. Parmi les engagements majeurs figure l'instauration d'un cessez-le-feu permanent. Ce cessez-le-feu interdit toute attaque armée, toute propagande haineuse et toute tentative de modification des lignes de front. Un mécanisme mais conjoint des vérifications sera mise en place pour en assurer le respect. Et sur le plan humanitaire, la déclaration prévoit notamment la libération encadrée des prisonniers d'intérêt en collaboration avec le CICR, le retour volontaire et sécurisé des déplacés et réfugiés avec l'appui du ICR et des pays d'accueil. Autre pilier fondamental, la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Un processus qui fera l'objet d'un accord de paix global actuellement en préparation avec un calendrier de mise en œuvre en cours de finalisation. Les deux parties s'engagent également à protéger les civils, à faciliter l'application du cessez-le-feu et à rejeter tout discours de haine, xénophobe ou stigmatisant. La MONUSCO et d'autres mécanismes régionaux pourraient appuyer ce processus si besoin. Et le calendrier est serré. D'ici le 29 juillet, le début de la mise en œuvre des engagements, le 8 août, l'ouverture officielle des négociations entre les deux camps et le 17 août, la signature attendue d'un accord de paix.
Dans le chapitre des réactions, commençons par l'opposition politique. Pour Prince Epengue, de la coalition Lamuka, la fin de la guerre d'agression qui déchire la RDC demeure la priorité des priorités. C'est pourquoi Lamuka soutient tous les efforts qui peuvent ramener la paix au pays et prend acte de la déclaration des principes qui vient d'être signée à Doha, au Qatar. On écoute Prince Epengue dans ses propos recueillis par Jude Mister Bilanda.
La priorité des priorités pour la coalition Lamuka, pour l'opposition congolaise, c'est la fin de la guerre d'agression qui déchire notre pays. Que l'on recouvre l'intégrité de notre territoire, que l'on libère nos provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. C'est dans cette logique que nous avions salué les efforts des États-Unis, que nous avions pris acte de l'accord des principes de Washington, quoique perfectible. Dans cette même idée, nous avons salué les efforts fournis par le Qatar avec la déclaration des principes qui vient d'être signée. Si ça peut nous ramener la paix à Goma, à Bukavu et dans d'autres localités, nous ne pouvons que prendre acte. Les volets sous-régionales ayant été traités à Washington et Qatar, les volets internes doivent être priorisés via un processus congolo-congolais.
Quelles sont alors les attentes de la population par rapport à cette déclaration de principe qui balise le terrain pour que les discussions à venir aboutissent à l'instauration d'une paix durable? Ronéline Tibonera a recueilli les avis de quelques Kinois. On les écoute.
Si les engagements sont respectés, le cessez-le-feu, retrait des troupes, dialogue inclusif, cela pourrait calmer les tensions dans l'est de la RDC. Mais sans la volonté politique réelle et sans les contrôles sur les acteurs armés, les risques d'un échec comme les précédents accords restent élevés.
Une fois qu'on n'arrive pas à trouver la solution à ces causes profondes des conflits, les combats vont continuer. Il n'y a pas même 24 heures au Sud Kivu, on a appris qu'il y a des combats qui ont éclaté entre les Wazalendo et la rébellion des M23.
Il faut sincèrement saluer, n'est-ce pas, les efforts fournis par à la fois les parties impliquées dans le conflit ainsi que la médiation pour retrouver la paix durable, que l'on traite d'abord des origines de cette crise pour que finalement on puisse néantir ses causes et prétendre garantir au Congo et aux Congolais une stabilité, un développement pour notre pays.
Dans cet accord, il y a un point qui mentionne il faut qu'il y ait restauration de l'autorité de l'État. Ça veut dire que les M23 doivent laisser les places qu'ils occupaient au gouvernement.
Le parti politique Alliance des nationalistes congolais ANC exhorte les Congolais à faire preuve d'unité, de cohésion et à préserver les frontières héritées de la période coloniale. Le secrétaire général de ce parti politique a lancé cet appel ce samedi lors d'un entretien accordé à Radio Okapi. Il salue également l'engagement des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et appelle chaque Congolais à leur emboîter les pas pour défendre l'intégrité du territoire national. Hussein Nembongo au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Il y a plusieurs instrumentalisations, aussi bien du côté de certains opportunistes et politiciens qui veulent profiter de leur boulimie du pouvoir pour marcher sur la lutte de Wazalendo et aller au trône. Ça, nous dénonçons ça et la population doit être vigilante, le gouvernement doit être vigilant parce qu'il y a des opportunistes. Donc la lutte, c'est plutôt gagner cette république. Toute la classe politique doit comprendre que c'est au-delà de la lutte politique, que vous soyez de l'opposition, majorité ou société civile, nous luttons ici pour sauver l'intégrité du territoire national. Et donc, c'est une question de vie de la République. Nous sommes sur les pas de Lumumba, de Simon Kimbangu, de M. Laura Désiré Kabila, de Pierre Moulele.
En plus bref, le coordonnateur résident du système des Nations Unies en RDC est arrivé à Kisangani hier dans la soirée. Bruno Le Marquis est accompagné du représentant de l'OMS en RDC, Dr. Ama Sambo Bureima, ainsi que du directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme de la MONUSCO, Patrice Vahar. Sa visite consiste notamment en la mise en place de l'équipe provinciale des Nations Unies, laquelle va couvrir les provinces du Bas-Ouélé, du Haut-Ouélé et de la Tchopo. Mais bien avant cette activité, le haut représentant du système des Nations Unies pour le développement au pays va présenter les civilités à l'autorité provinciale. Et dans l'après-midi, Bruno Le Marquis et sa suite vont effectuer une visite au site de Konga Konga où sont installés les déplacés du conflit Mbole-Lengola dans la commune de Kisangani. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, dit avoir documenté 427 violations et atteintes aux droits humains au cours du mois de mai 2025, représentant une réduction de 22% comparée au mois précédent. Dans son communiqué de presse publié ce vendredi à Kinshasa, le BCNUDH indique qu'au moins 81% de ces violations et atteintes ont été enregistrées dans les zones touchées par le conflit armé, les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri étant les plus affectés, grâce à Mzati Masanzi.
À en croire le BCNUDH, la majorité de ces violations et atteintes, soit 68%, sont imputables aux groupes armés, parmi lesquels le M23 appuyé par les forces armées rwandaises, les éléments Wazalendo, diverses factions Mai Mai et la coopérative pour le développement du Congo Codeco. Les agents de l'État ont été responsables de 31% des violations documentées, principalement les agents de la police nationale congolaise et les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo FRDC. Au cours du mois de mai, le BCNUDH a documenté au moins 16 incidents de violences sexuelles liés au conflit, affectant 26 victimes adultes dont 25 femmes et un homme. Ces chiffres représentent une baisse par rapport au mois d'avril. La majorité des victimes se trouve dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. En outre, une femme a été recensée dans la province du Tanganyika, tandis qu'un homme a été victime de viol dans la province du Maniema. Le BCNUDH note par ailleurs qu'en mai, la situation de l'espace civique a été marquée par des arrestations arbitraires d'acteurs politiques dans la dynamique de la restriction des activités du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD.
Les outils de planification sont désormais disponibles pour l'aménagement cohérent, résilient et attractif du territoire national. Déclaration de Maître Guy Luando ce vendredi à Kinshasa au cours d'un échange avec la presse en son cabinet de travail. Pour une bonne gouvernance territoriale, le ministre d'État évoque entre autres la loi de l'aménagement du territoire récemment promulguée, le programme national de l'aménagement du territoire, les guides méthodologiques, les géoportails nationaux. Tous ces documents sont déjà publiés dans les journaux officiels. Concrètement, les constructions désarticulées, désordonnées et anarchiques seront détruites. D'autres détails avec vous, Jean-Désiré Kanyama.
Citant quelques cas précis, Guy Luando fait allusion à la Gombe, ici à Kinshasa.
C'est pas comme les désordres que nous avons aujourd'hui. La Gombe explose, il n'y a plus de maisons basses, il n'y a plus de villas, des immeubles à 30 niveaux, 40 niveaux. Dans tous les pays du monde, il y a des quartiers résidentiels. Ça n'existe nulle part.
Une autre illustration, c'est celle de la rocade en construction dans la capitale.
C'est comme l'expérience qu'on va faire actuellement, tout autour de la rocade. Il y a un travail de zonage qui s'est fait pour mieux affecter les espaces.
Et puis, ce premier projet phare de la ville durable au Congo central.
Nous allons avoir pour la toute première fois la ville durable de Boma, chiffrée à 58 millions d'euros. Il y a le volet des infrastructures urbaines, l'entrepreneuriat des femmes. Il y a un volet culturel.
Quid des embouteillages dans la ville de Kinshasa?
Ceux qui veulent savoir les embouteillages que nous avons, les 17 millions de personnes dont on parle, nous tous nous sommes concentrés dans 30% de la superficie de Kinshasa. D'où un projet très ambitieux de l'extension de la ville qui va commencer par des parcs industriels.
Aussi dans les viseurs de la loi, des constructions au-dessus des égouts et autres canalisations. La relocalisation, à titre d'exemple, est pour des raisons évidentes, des camps Kokolo à Kinshasa et Sayo au sud Kivu. Le ministre prévient, pas de règlement des comptes, non plus de trafic d'influence. L'outil de planification sera suivi à la lettre, dit-il. Mais en attendant, la population congolaise est appelée à s'approprier toutes ces réformes.
Par ailleurs, les travailleurs de commerce des Chinois annoncent une grève pour ce lundi 21 juillet sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Ils dénoncent le non-respect du code de travail et exigent la mise en application du décret signé par la première ministre le mois dernier, document reconnaissant le nouveau taux de 14 500 francs congolais pour les SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti, tel que convenu lors des discussions avec les autorités et leurs employeurs. Ils le disent dans une déclaration signée par tous leurs syndicats, document présenté samedi à la presse et plusieurs de leurs membres au site du zoo à Kinshasa. Tub Ngandou, secrétaire national du syndicat national de l'hôtellerie, alimentation d'hiver et interprofessionnel SITAC, explique la situation au micro de Babel Mpongo, Massimango.
Il y a eu l'ajustement et aussi la fixation. L'ajustement, on avait parlé de 14 500 pour le mois de mai, mais chez les Chinois, parce que la grève de l'année, ce sera justement pour les Chinois. Parce que aux côtés des Indiens, il y a eu quand même pas l'application, mais les ajouts. Il y a ceux-là qui ont ajouté 50 000, il y a ceux-là qui ont ajouté 100 000, ça dépend de l'employeur. Et le reste, là, c'est l'exposition des gens qui devaient contrôler, ce n'est pas notre problème. Mais chez les Chinois, là-bas, il y a zéro. Il y a le travail jusque-là. Les matins, ils sont des livreurs, facturiers, mais les soirs, ils sont à la maison pour laver les habits, les assiettes. Et là-bas, il y a les salaires sont à 30 $, 40 $. Il y a des gens qui, chaque jour, on les donne 9000 francs, à la fin, il n'y a rien. Avec ça, il n'y a pas de semaine. Ils travaillent du lundi au dimanche. Venez dans les grands marchés du dimanche, vous allez trouver les Chinois en train de faire des travaux. Mais le travail, il commence lundi, à 6h jusqu'au dimanche. Et chaque jour, ils travaillent. C'est pour ça que nous disons, tous les travailleurs, les Chinois, principalement les magasins des Chinois, les lundis, tous les magasins resteront fermés. Nous allons rester avec les travailleurs dehors pour attendre l'application du décret du Premier ministre.
Actualité internationale.
Au Kenya, le renommé défenseur des droits humains Boniface Mwangi doit comparaître devant les tribunaux lundi 21 juillet. Il est en détention depuis son arrestation samedi à son domicile. Dimanche, un rassemblement devant le commissariat où il est retenu était organisé. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a consacré vendredi une partie de son intervention devant la presse nationale à la situation au Mali. Il a notamment affirmé qu'il est disponible si, à nouveau, le Mali souhaite l'implication de son pays dans la recherche de la paix au nord, mais que l'Algérie n'acceptera pas à sa frontière des mercenaires.
L'invité.
Notre invité est le vice-premier ministre, ministre congolais de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani Luko. Depuis Doha, il intervient sur la signature de la déclaration des principes entre les gouvernements congolais et l'AFC M23 intervenu samedi sous la médiation qatari. Jacquemain Chabani s'entretient avec Grace Hamzati Masanzi.
Monsieur le vice-premier ministre Jacquemain Chabani, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Vous êtes sur place à Doha, quelles sont vos impressions à la signature de cet accord de principe qui intervient après 3 mois d'après-discussion entre les deux parties?
Un sentiment de satisfaction après plusieurs jours de négociations sur le document de la déclaration de principe. Il faut reconnaître que la représentation de la République démocratique du Congo a su garantir les intérêts de la République en mettant au centre de la problématique la situation de nos populations qui se trouvent dans les territoires occupés, mais aussi la question de la souveraineté de la République, de l'intégrité du territoire et de la restauration de l'autorité de l'État, qui sont les éléments majeurs qui reviennent en termes de principes qui vont guider la continuité du processus qui a pour objectif déterminant la paix à travers un accord de paix. Donc nous avançons tant bien que mal et nous pouvons nous réjouir d'avoir aujourd'hui pu signer à Doha cette déclaration des principes. Et c'est l'occasion pour nous de remercier tous les partenaires, les pays qui accompagnent la République démocratique du Congo dans ces moments difficiles, principalement l'État du Qatar, mais aussi les États-Unis d'Amérique, ainsi que les organisations régionales et sous-régionales.
Quelles sont les étapes qui vont suivre après la signature de cette déclaration de principe?
Après la signature de cette déclaration de principe, il y a un break de 10 jours qui a été prévu par la médiation qatari. Et dans les 10 jours, les négociateurs, la représentation de la République démocratique du Congo et l'autre partie vont se retrouver ici à Doha pour entamer les discussions sur la rédaction de l'accord de paix qui sera signé.
Et quel statut cette déclaration de principe accorde aux zones occupées par la rébellion, notamment les villes de Goma et Bukavu, qui sont isolées du reste de la République?
La déclaration de principe ne réserve aucun statut particulier aux territoires occupés. Elle énonce des principes qui vont être exploités et déclinés dans l'accord de paix, qui va définir les conditions, la procédure pour la paix effective qui ne peut être réalisée qu'à partir du moment où l'intégrité du territoire national est rétablie, l'autorité de l'État est restaurée et la souveraineté de la République est retrouvée sur toute l'étendue du territoire. Donc toutes ces questions seront pleinement détaillées dans l'accord de paix qui va être signé très prochainement ici à Doha.
Quel message lancez-vous à tous les Congolais, principalement ceux de la partie est du pays?
Nous sommes conscients des peines, des difficultés, des souffrances dans lesquelles se trouvent nos populations dans les territoires occupés. Je crois que cela interpelle pleinement le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et c'est ça qui l'encourage dans sa détermination à trouver très rapidement une solution à cette situation dans laquelle notre pays se trouve. C'est un message d'encouragement, mais aussi de résilience et de détermination que je transmets à tous nos compatriotes de cette partie de la République, à tous nos frères, nos sœurs, qui passent des moments extrêmement difficiles, nous en sommes conscients, et les rassurer que dans un avenir très proche, nous arriverons ensemble à tourner cette page. C'est vrai que après, ensemble, nous aurons encore d'autres devoirs pour non seulement restaurer l'autorité de l'État, mais réparer, rétablir les conditions de vie pour que toutes ces familles déchirées, dispersées aussi, non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi réfugiées dans les pays limitrophes, puissent retrouver leur milieu naturel et reprendre avec suffisamment de courage leur vie au quotidien.
Jacques Meshabani, merci.
Merci à vous, Radio Okapi. Merci beaucoup.
Notre invité, Jacquemain Chabani Louko, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, s'entretenait avec Grace Amzati Massanzi. Et c'est par là que nous mettons fin à notre grande édition du journal coordonné et supervisé par Jude Mister Bilanda et Jean Gandou Kabongo, mis en ordre par Alain Goy. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.